exaltamment. Dans leur campagne, zéthique, qui traquait trop si tremblant. Dans leur campagne, zéthique, qui traquait trop si tremblant. C'est pour la Sainte Russie, pour la vieille tradition.
Eh bien, bonjour, ou plutôt bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de la Résistance française. Eh bien, je remercie tout de suite pour la technique de cette émission, la réalisation de cette émission. Que serions-nous sans nos techniciens? Eh bien, ce sera Virginie qui... non seulement est là souvent, très souvent même, pour les libres journaux de géopolitique profonde, tous les samedis matins de 9h à 10h30. On se donne rendez-vous d'ailleurs à 9h samedi. Nous aurons Christian Combaz, campagnol. Je sais que vous êtes très nombreux à aimer Combaz. Donc samedi matin, 9h, campagnol, Combaz. Dans tous ces états, hein, je pense que Macron va en prendre pour son grade, si j'ai bien compris ce que Christian allait, ce dont il allait nous parler. Voilà, donc ça, ce sera samedi. Mais aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc je remercie Virginie à la technique. Pour la réalisation, n'hésitez pas à, bien, je ne sais pas s'il y a une, s'il y a des bénévoles. En plus, avec ces chantiers, c'est tout sauf simple d'être entre les parpaings. Les bruits de perceuses, les poussières, enfin c'est tout à fait horrible, les conditions de travail qui heureusement vont bientôt changer pour du mieux sur Radio Courtoisie bien sûr, qui n'arrête pas le progrès. Donc dans ces cas-là, le mieux c'est de m'envoyer, c'est de nous envoyer plutôt au secrétariat ou à la radio un courriel électronique, et avec ce courriel électronique, eh bien, il va arriver jusqu'à Virginie qui va me le transférer, qui va me le communiquer, et je n'hésiterai pas à poser les questions, faire les remarques, les observations qui seront les vôtres à mon invité du jour, évidemment, que je vais vous présenter dans un instant, mais auparavant, eh bien, vous aurez la chance d'entendre la douce voix de celle qui m'assistera ce soir et qui n'est autre que Lara Stam. Bonsoir, ma chère Lara.
Bonsoir Nicolas, bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Et pour la petite précision, cher Nicolas, Christian Combaz nous parlera de l'affaire Epstein en lien avec le christianisme. C'est-à-dire que quelles sont les répercussions, quels étaient les buts un peu diaboliques de certains, certains aspects de cette affaire.
Il écoutez,
réservé spécialement pour Radio Courtoisie ce sujet.
Ah, très très bien, très très bien. Écoutez, vous en savez plus que moi sur notre cher et ami Christian, qu'on est toujours heureux, que nous aurons aussi d'ailleurs le soir même sur une interview sur GPTV. Voilà, donc on va passer le week-end avec Campagnol, avec Léon, le devin Léon, avec l'abonné du monde, avec tout le... tous ces personnages.
Le bon font, Gustave. Gustave.
Gustave qui fait, voilà, qui font ces personnages, l'imaginaire de Christian Combaz. Je vous disais donc l'émission du jour, ma chère Lara, eh bien, c'est l'esprit ou l'âme des peuples. Vous qui nous venez d'Arménie, de Russie, eh bien, qui êtes moins touchés peut-être par. Le raisonnement conceptuel techno-scientifique aristotélicien du pays, de la nation puissance. Je pense que la notion d'âme, d'un âme, on parle bien de l'âme russe, si je ne me trompe.
L'âme.
Ça doit être quelque chose, ça doit être un sujet qui vous parle, je suis sûr.
Évidemment, Nicolas, l'âme slave, c'est cette expression que j'ai pu rencontrer très vite en France. Et puis, effectivement, je m'y retrouve. Il y a quelque chose d'assez tragique, une forme de certains peuples ont cette âme ou cette incapacité parfois d'être très heureux et de se la couler un peu douce. Ça fait partie de ces peuples qui se qui était toujours dans un tumulte, dans une résistance à quelque chose. Et oui, aussi bien mon côté russe que mon côté arménien connaît parfaitement ces deux aspects d'âme des peuples, en fait.
Très bien. Bah, écoutez, j'espère que vous allez rester avec nous et avec notre invité du jour, parce que je pense que cette émission va être passionnante. Il y a des années de cela, je n'avais que le bénévolat de patron d'émission de Radio Courtoisie et j'essayais de gâter le plus possible nos auditeurs, mes auditeurs. Et souvent, il m'est arrivé d'avoir des auteurs aussi haut en couleur que mon invité du jour, que j'apprécie particulièrement. J'ai des souvenirs émus de magnifiques émissions que nous avons faites ensemble sur Radio Courtoisie. Pour ceux qui suivent, et qui me suivent et qui suivent nos émissions, eh bien, ils vont tout de suite savoir de qui je parle, puisque mon invité du jour n'est autre que Luc Biget, docteur en sciences, consultant, écrivain, l'homme de réenchanter le monde, l'homme qui travaille autour du monde symbolique et de ses conséquences sur notre société. Il a publié de très nombreux ouvrages, dont en plusieurs tomes une magnifique symbolique du corps humain, comme Annick de Souzenel. D'ailleurs, j'ai fait la connaissance avec la matière intellectuelle et philosophique et spirituelle de Luc Biget en même temps, ou pratiquement, ou juste après avoir rencontré la pensée d'Annick de Souzenel et d'en avoir d'ailleurs fait plusieurs émissions sur Radio Courtoisie. J'ai fait de même avec Luc Biget. Donc, de nombreux ouvrages qu'il a publiés, « L'homme réunifié, la force du symbolique ». Et il nous revient avec, très prochainement, il va nous expliquer cela, une conférence à Paris sur l'âme des peuples, justement, qui est un sujet qui va être tout à fait passionnant et que nous allons développer lors de cette émission, justement, du Libre Journal de la Résistance française. Donc, je salue tout de suite, puisque je sais qu'il est là, il nous entend et nous allons pouvoir échanger avec lui. Luc Biget, bonsoir.
Bonjour, Nicolas.
Voilà. Alors, Luc Biget, j'espère que tout le monde va vous entendre, parce que moi, le son est assez limité, mais j'ai confiance dans la technique pour régler ce souci. Alors, Luc Biget, le thème que nous allons développer ce soir, c'est l'âme des peuples. Les peuples ont une âme, les peuples ne sont pas qu'une puissance, il n'y a pas que de la géopolitique. Et d'ailleurs, le titre de votre future conférence à Paris, ce sera une géopoétique. Car s'il y a une géopolitique, il y a aussi une géopoétique. Poétique, mon cher Luc. Donc, vous allez pouvoir nous dire quelques mots sur ce sujet. Ah, alors, Luc Biget ne répond plus. Il est en train de pianoter. Alors, je me demande où est Lara, qui devait normalement rester avec moi. Et alors, je me retrouve tout seul dans cette émission, tout seul, sans...
Je suis là.
Voilà, donc, je ne sais pas ce que fait Luc. Je le vois... sur son téléphone. Luc, vous ne m'entendez pas ? Décidément, on n'a pas de chance. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez, Luc ? Bon. Écoutez, j'espère que le problème va être vite réglé, parce que je ne vois pas. Il est censé connaître ce genre de choses-là. Nous allons communiquer son téléphone. Mais alors, il ne répond pas sur son... Alors, il a coupé. Il ne répond jamais sur son téléphone. Moi, je ne sais pas comment il fait. Voilà, il nous vient de l'Isère, alors évidemment dans l'Isère, et pourtant il y a la fibre. Moi je suis aussi un néo-rural, et je peux vous dire que comme vous pouvez l'entendre, Lara c'est pareil, on nous entend très bien, donc je ne sais pas, voilà, quand on a des problèmes avec la science et avec la technoscience, comme Luc Biget, il ne faut pas s'étonner d'avoir ce genre de problème. Lara, revenir peut-être, je ne sais pas il a disparu littéralement. Donc, je vais essayer de communiquer son téléphone à la technique, mais enfin, je ne promets rien, puisque moi, je n'arrive pas personnellement à l'avoir.
Cher Nicolas, ne souhaitez-vous pas faire un petit exercice qu'on sait faire ensemble et qu'on n'a pas pu justement réaliser ces derniers samedis, une petite revue de presse? On va improviser.
Oui, vous m'entendez?
Ah, oh là, je l'entends. Luc, vous l'entendez?
Désolé, j'ai dû changer d'appareil, le mien est parti en vrille. Oui, je vous entends.
Alors là, je ne vous vois plus. Vous êtes au téléphone ?
Oui, je suis sur le téléphone.
Ah, très bien. Donc là, tant pis, on ne vous aura pas.
Non, mais ça peut, voilà, ça peut marcher aussi. Voilà.
Ah, ben voilà.
Voilà, on y arrive.
Eh ben, on y arrive. Et vous m'entendez parfaitement ?
Et je vous entends parfaitement bien.
Ah, oui. Ah, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup mieux comme ça. Bon, très, très bien. Ah ben Lara, c'est vous que j'entends plus.
Je vous laisse, cher Nicolas.
Et voilà, ben la technique me dit super pour le son. Lara, oui. Ben écoutez, restez peut-être quand même dans les parages, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tous les cas, merci en tout cas d'être revenu dans cette émission. Ah ben merci Lara.
Oui.
Alors Luc Biget, je disais donc, conférencier, docteur en sciences, consultant, spécialiste de la symbolique, entre autres du corps humain. Vous allez faire prochainement à Paris une conférence de la géopolitique à la géopoétique. Expliquez-nous un petit peu le sens de cette conférence qui arrive, je crois, à la fin du mois de mars.
Oui, c'est le 21 mars à Paris. Ben, le terme géopoétique est emprunté au poète écossais Kenneth White, qui était dans une démarche de poétisation du rêve, de poétisation du monde. C'était un grand voyageur, hein, comme Nietzsche, qui classait d'ailleurs comme un géopoéticien. Mais l'idée ici, c'est de considérer évidemment qu'on ne vit pas seulement dans un monde techno-scientifique, capitalo-techno-scientifique, pour faire simple, ou bref. Mais que aussi les peuples ont des âmes, c'est-à-dire les peuples ont des égrégores. On parlait tout à l'heure de l'âme russe et de l'âme slave et arménienne.
Oui.
Et en fait, c'est le fait de on baigne dedans en réalité, mais ça n'est jamais questionné, ça n'est jamais conscientisé. Et si on arrive à le voir clairement, à ce moment-là, on peut utiliser ces conditionnements comme des conditions pour le déploiement individuel. Et aussi collectif, bien sûr. Donc, c'est quoi l'âme d'un peuple ? Au fond, alors je vais prendre une métaphore ou une image, hein, mais ça n'est qu'une image. L'âme, c'est anima, c'est ce qui anime.
Oui.
Donc, c'est ce qui va donner la vivance, la dynamique au peuple, et en même temps créer des liens en interne, créer du mouvement, de la circulation et un sentiment d'unité interne. Si vous avez l'expérience de votre âme, entre guillemets, vous voyez bien que c'est un espace intérieur de paix profonde ou de joie profonde qui ne dépend plus du regard des autres pour exister. Donc du coup, on n'est plus dans une concurrence par rapport au monde extérieur, mais on est plutôt dans un rayonnement. Et les âmes, les peuples, les nations ont aussi cette dimension d'âme. Alors, dont la relation fluctue en fonction de l'histoire, on pourra en reparler tout à l'heure, mais il y a deux facteurs qui sont importants, c'est l'histoire et la géographie, c'est-à-dire le lieu géographique va conditionner l'âme du lieu et également son histoire. Alors, je reviens à cette métaphore que je voulais évoquer, si vous êtes dans une maison et que quelqu'un arrive, l'atmosphère de la pièce va changer, l'atmosphère de la maison va changer. Et si la personne reste longtemps, il va y avoir une espèce d'osmose, quelque chose de nouveau qui va se créer. Donc l'âme, on va dire, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est de l'ordre de l'impalpable, c'est de l'ordre de l'indéfinissable, mais c'est quelque chose qu'on sent profondément et qui, à notre insu, souvent nous habite, surtout si on n'a pas voyagé. Parce que, évidemment, pour prendre conscience de l'âme de la France ou de l'âme de l'Angleterre ou de l'âme de l'Inde, il faut voyager, c'est-à-dire il faut aller dans... Je veux dire, la nature d'un individu ne se réalise que par rapport à son contact avec les autres. Le moi se renouvelle par la magie de la relation. Je suis allé en Inde récemment et c'est vrai que l'âme de l'Inde, c'est-à-dire l'atmosphère générale, qui est très féminine, qui est très sensible, où les femmes ont leur corps d'intériorité sur eux-mêmes, à l'extérieur d'elles-mêmes pratiquement, n'a rien à voir avec l'âme de la France où, quand je suis rentré à l'aéroport de Roissy il n'y a pas longtemps, l'atmosphère était beaucoup plus coupante, cassante. Bon, mais c'est lié à la tradition intellectuelle française. Le mental casse, découpe, voire critique quand il est en phase ombre, alors que le côté féminin de l'Inde est évidemment beaucoup plus couvrant et comment dirais-je, je ne vais pas dire maternant, mais Aurobindo parlait de Mother India, la mère Inde, donc de cette dimension matricielle en réalité.
Est-ce que ça, c'est ensuite dépend de, je dirais, du conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une âme, en effet, l'anima indienne, qui serait maternelle, un côté plus rationnel, plus coupant, plus cassant, dites-vous, et critique même, avec l'âme de la France. Mais est-ce que les éléments plus conjoncturels de crise, tels que peut la traverser la France aujourd'hui, se ressentent aussi, ou bien est-ce que ce qui surplombe, en quelque sorte, c'est-à-dire l'âme et l'anima en tant que tel, efface un peu les aspérités conjoncturelles?
Alors, je serais plutôt pour la deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a des constantes, il y a des invariants dans l'histoire d'un peuple. Si on regarde, par exemple, ça c'est le travail de Fernand Schwartz qui interviendra, qui est ethnologue et surtout aussi égyptologue, qui interviendra lors du colloque du 21 mars, c'est-à-dire il a montré qu'il y avait quatre constantes dans l'histoire de la France. Alors, oui. comme il est natif d'Amérique du Sud, il a ce recul anthropologique plus facilement que nous. Mais ces quatre points, c'est d'abord la grande déesse, la France est une terre d'accueil et l'a toujours été au fil de l'histoire. Déjà, à l'époque de Charlemagne, on parlait de la douce France, vous savez, la chanson de Roland.
Oui, oui.
Qui est restée jusqu'à aujourd'hui, en réalité. Donc ce côté un peu matriciel, générosité, grande mère, lié aussi à l'éducation, c'est le pays qui a le plus de fécondité dans tous les siècles passés, jusqu'à aujourd'hui pratiquement.
Ouais.
Donc il y a ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui à travers la générosité de la France dans la sécurité sociale et tout le côté.
C'est vrai.
Tout le côté social.
Donc matériel, une générosité matérielle.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la dominante, ça c'est l'aspect histoire, c'est-à-dire on est plongé dans le monde de la matière. Je reviendrai tout à l'heure sur cette logique temporelle. Mais là, je parle d'une logique plutôt des constantes géographiques, en fait.
C'est ça.
Et donc, le deuxième point, mais bon, Fernand le développera sans doute beaucoup mieux lors
du
colloque.
Allez-y quand même, Luc.
Oui, je vais quand même le développer. Le deuxième point, c'est la guerrière. Alors, pas au sens militaire, mais au sens d'avoir une mission à accomplir. Alors, on le retrouve dans c'est la fille aînée de l'Église, si vous voulez, qui rejoint le troisième point que j'évoquerai tout à l'heure, mais c'est ce besoin de se sentir investi par une mission. C'est le fait de défendre ses idées partout où on se trouve. C'est le fait de vouloir convaincre, etc. Donc, ce n'est pas la guerrière au sens militaire, c'est la guerrière au sens où j'ai l'énergie de défendre des positions et je veux les faire avancer. Le troisième point, c'est la mystique, curieusement. Alors aujourd'hui, évidemment, on a perdu toute métaphysique, donc on a beaucoup perdu en termes de mystique. Ouais. Mais il faut rappeler que dans l'histoire de France, l'huile sainte qui permettait l'onction des rois, oui. Et la première, c'était quasiment un miracle. C'est-à-dire, après, lorsque les rois étaient oints par cette ampoule qui contenait l'huile sainte, ils avaient le pouvoir de guérir les malades, c'est les écrouelles.
Tout à fait.
Donc y a le roi, dans la tradition française, se présente comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc ça, c'est cette dimension mystique. Et en même temps, dès Charlemagne, en réalité... L'empereur a été protecteur des lieux saints à Jérusalem, donc du Saint-Sépulcre précisément, et ça a duré jusqu'à Napoléon III. Donc c'est une constante aussi profonde dans notre histoire.
Bien sûr.
Alors après, il y a eu une rupture lorsque l'abbé Bruel, je crois, a cassé, lors de la Révolution française, il a cassé la Sainte Ampoule et il a rompu le lien. Mais oui. C'est pas parce que le lien est rompu qu'il n'existe plus. Il va se manifester d'autres façons. D'accord. à travers ce côté un peu missionnaire, entre guillemets, que la France a dans son ADN. Et puis, le quatrième point, donc la grande déesse nourricière, la mystique, la guerrière et le politique. La France est un pays éminemment politique que l'on retrouve. Alors c'est une vieille nation qui est née avec Clovis, c'est sans doute la plus vieille nation d'Europe, mais ce qui compte en France, l'institution est plus importante que les citoyens, d'une certaine manière. Et parfois, les institutions vont contre les citoyens, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. L'institution est supposée protéger les citoyens. En France, l'institution politique se nourrit elle-même et tente sa propre survie, parfois malgré les gilets jaunes ou les révoltes ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a ce côté très politique, institutionnel, comment on organise la cité, qui est également dans les gènes administratifs, quand c'est un peu ombre, comment dans les gènes de la France. Mais... Donc c'est intéressant. Pardon, oui.
Ah non, non. Alors, j'ai tout de suite une question par rapport à ces quatre grands blocs symboliques de la France. En effet, vous avez celle qui accueille, la mère nourricière, vous avez la combattante, vous avez la mystique.
Oui.
Et vous avez le dernier point que vous avez développé, qui est la politique.
La politique.
Ces quatre points, comment ? Parce que vous l'expliquez, ça nous vient de Charlemagne, de Clovis. Mais comment s'intègre la République ? Comment s'intègre la Révolution par rapport à cela ? Est-ce que c'est une coupure, une rupture ? Ou bien est-ce qu'elle s'intègre au moins dans le volet politique, comme d'ailleurs dans le volet... Oui. Nourricier au travers de la sécurité sociale, au travers alors, les avancées sociales de la République.
En fait, les grands archétypes, hein, ces quatre archétypes, ils vont s'exprimer comme ils peuvent, là, en fonction des matériaux d'une époque, en réalité.
Oui.
Donc, on voit bien que la fonction nourricière, qui était la France, qui était une grande terre agricole, hein, qu'il y a de moins en moins, mais c'est passé au niveau social, le nourrissement de la population. Avec toute l'attention mise aux réfugiés,
mais ça, c'est en crise.
Aux sans-papiers, etc.
J'ai presque envie de dire que les quatre grands archétypes dont vous nous avez parlé sont entrés tous les quatre en crise aujourd'hui.
Absolument. Absolument. Et c'est pour ça que le pays est dépressif. C'est-à-dire, il n'est plus en contact avec son âme, avec ses valeurs fondatrices, d'une certaine manière. Et puis, un autre élément que je rajouterais...
Ou uniquement dans son facteur ombre. C'est-à-dire, par exemple, hein, vous disiez la bureaucratie, par exemple.
Absolument. Absolument. Et la guerrière se transforme en espèce de paranoïa contre la Russie au lieu de réfléchir à quelle est la mission de la France dans le monde, par exemple.
Tout à fait.
L'administration, la politique devient administration étouffante. La mystique, elle est un peu perdue aussi parce que du coup, c'est plutôt lié à l'histoire, c'est-à-dire on est rentré dans le champ matériel. On a perdu le réenchantement du monde. Ça, il faudra revenir aux travaux de Max Weber.
À travers la laïcité. Cette idéologie de la laïcité qui est un dévoiement de la mystique, justement.
C'est-à-dire, en fait, la mystique, au lieu d'être collective comme elle l'était naguère, c'est devenu un cheminement individuel.
D'accord.
Mais on n'a pas encore suffisamment mis en évidence les clés pour que chacun puisse trouver son propre cheminement individuel. Je parle en tant que nation, évidemment, pas en tant qu'individu.
Et l'accueil devient submersion migratoire, par exemple.
Et l'accueil devient misérabilisme. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui... C'est des valeurs essentielles, évidemment, mais qui vont... en fait, créer un mode de victimaire, c'est-à-dire plus on est victime, plus on est choyé, alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Le côté nourricier devrait nourrir, dans une lecture prométhéenne, ici cette fois-ci, hein, devrait nourrir les personnes qui peuvent, par leur propre travail, leur propre individualité, leur propre potentiel, nourrir la nation.
Tout à fait. Tout à fait. Bon, là, on a quatre éléments tout à fait... c'est passionnant.
Mais le point important, je crois, que c'est de voir que quand on tombe dans l'ombre des valeurs fondamentales d'une nation, celle-ci perd la boule, d'une certaine manière. Elle perd sa direction et il y a de la confusion qui s'installe, voire de l'ombre qui s'installe à travers l'aspect inverse des archétypes.
Oui. C'est exactement ça. Alors, pour revenir sur la notion d'âme des peuples, parce que, bon, voilà, il y a une poétique, mais nous sommes aujourd'hui plus que jamais dans la politique puissance. On nous parle d'un monde unipolaire ou d'un monde bipolaire ou d'un monde multipolaire. Mais ce sont des pôles de puissance avec des titans qui s'affrontent. Un monde dont on dit qu'il sera bientôt partagé entre ces grandes puissances qui, pleines de colère, de rage, de fureur, vont diriger d'une main de fer le monde de demain, la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, l'Amérique de Trump, c'est-à-dire des, en tout cas ça nous est présenté comme tel, comme des titans qui se partageraient le monde d'un monde puissance, d'un monde qui resterait finalement, comme vous l'expliquez, sur un socle westphalien. Alors vous allez nous expliquer tout ça, alors qu'il y a eh bien, une autre façon d'appréhender le monde peut-être.
Oui, c'est bien parce qu'on est en période de régression. On retombe un peu vers les systèmes de puissance du 19e siècle en ce moment. Oui. Donc, on est en période de régression. Alors, c'est le moment de transformer l'adage de la Révolution française aux armes citoyens en aux âmes citoyens. Parce qu'en fait, le changement ne peut se faire que là où l'on est. Alors c'est vrai, alors je vais revenir sur ce problème de la régression actuelle, c'est-à-dire en fait on a eu les Trente Glorieuses, c'est-à-dire on a eu une forme d'émancipation grâce à la richesse hein, du reste, par exemple le féminisme, la sortie des carcans religieux, on a eu également une forme de plus grande liberté individuelle qui s'est mise en place sans aller plus loin. C'est-à-dire ça, c'était au niveau de la culture. Mais on n'a pas questionné les archétypes, les principes qui sont derrière cette libération. Autrement dit, on n'a pas questionné c'est quoi le féminin. On se contente de parler du féminisme, mais c'est quoi le féminin en tant qu'archétype, quel rôle il a, surtout en France, quel rôle il a joué dans notre culture, dans notre société. On n'a pas à questionner non plus c'est quoi la liberté. Alors la liberté, on a dit, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Mais pas du tout. C'est quoi la liberté sur le plan spirituel donc ça aussi, il faut le questionner. Et puis on n'a pas questionné non plus du fait de l'entrée de la laïcité et de l'athéisme ou de l'agnosticisme dans le monde social. C'est quoi, comment trouver sa propre chemin vers Dieu, comment trouver son propre chemin de réalisation intérieure plutôt que de suivre celui imposé ou programmé par les religions anciennes. Donc du coup, comme on n'a pas fait l'étape supérieure, c'est-à-dire passer de la culture à l'âme de la France ou à l'âme des peuples, on revient, le soufflet tombe parce qu'on n'a pas su l'accrocher au ciel d'une certaine manière. Et du coup, toutes les questionnements qu'on n'a pas eus sur les principes qui animent chaque nation, on retombe dans les vieux systèmes de puissance. Oui. On pourrait dire, dans une logique un peu schématique, que c'est la puissance qui a créé la culture, et la culture qui devrait être ce point d'ancrage dans le ciel des principes métaphysiques, qui, à son tour, va nourrir l'individu et la nation. Mais on n'a pas eu ce courage-là, on est resté dans une espèce de paresse hédoniste en disant « je suis libre, je fais ce que je veux, je suis féministe, etc. » Mais c'était insuffisant en réalité. Donc en tout cas, c'est l'analyse que je peux faire de la situation. Donc on revient effectivement avec trois grands blocs qui veulent se partager le monde et qui sont de la toute-puissance. C'est pour ça qu'il est urgent et que ce colloque est aussi tourné vers une géopoétique, c'est-à-dire il est urgent de revenir vers une métaphysique. Parce que si on n'a pas de métaphysique, on a le nez collé sur le retour sur investissement, oui, sur le capitalisme et sur le travail. Or ça, il faut voir que...
Trump, on est un archétype, qu'on le veuille ou non.
Bah oui, alors en fait, oui, c'est un archétype, mais c'est un archétype qui a pris toute la place.
Ouais.
En fait, le capitalisme, c'est un truc assez incroyable parce qu'il a, il a détruit toutes les cultures, je pense même les chamans, même les peuples premiers, enfin, je veux dire, pour la raison toute simple qu'il promet la satisfaction immédiate des désirs. Donc, du coup, il empêche, simplement par paresse individuelle en réalité, mais il empêche le temps long, ou le temps moyen plutôt, de la conscientisation, de la maturation intérieure, et le temps plus long de la transformation biospirituelle. Donc, Donc on est, alors, si vous voulez, ce modèle de l'âme des peuples, l'idée qui est derrière, c'est si on comprend la nature ou si on arrive à l'interroger, la nature de l'âme de chaque peuple, on sort de ce modèle universaliste dans le mauvais sens du terme où une partie prend la place du tout, devient un universel, mais c'est un faux universel évidemment puisque c'est qu'une partie. Je parle du capitalisme. On peut permettre voir comment chaque peuple est, pour le dire encore comme ça, comment chaque peuple est ancré sur une structure mythologique particulière, oui. Et comment le fait de vivre ce mythe, alors Prométhée, Icare, Faust, Narcisse, l'Allemagne est faustienne, la France est plutôt icarienne, c'est-à-dire elle essaie sans cesse de sortir du labyrinthe pour élever ses ailes vers un nouveau soleil.
Et l'Amérique ?
L'Amérique est prométhéenne. Ouais. L'Amérique est très prométhéenne. D'ailleurs, le président actuel est très prométhéen si on regarde son thème astrologique. Alors, je finis ma phrase et je reviens sur l'Amérique.
Allez-y, je vous en prie.
L'idée, c'est de prendre le contre-pied de ce modèle capitaliste qui s'est universalisé en proposant, alors évidemment, on ne va pas le faire tout seul, mais c'est une petite pierre qui marque pour marquer quelque chose, en essayant de comprendre comment chaque nation peut développer sa propre mythologie, ses propres valeurs, se connecter à son âme et à ce moment-là entrer dans une vraie symphonie des peuples, un vrai dialogue des nations. Pour enrichir l'Europe et ultimement, et quelle est la fonction de l'Europe dans le monde, etc. Après, on peut se poser toutes ces questions. Mais donc, c'est au contraire une démarche d'ouverture à des possibles encore inédits au sens propre du terme, qui n'ont jamais été dits, pour que chaque peuple trouve sa joie en réalité. Parce que quand on est dans son mythe fondateur, on est dans la joie. Et quand on est dans la joie, on n'a plus envie de faire la guerre. On entre dans le dialogue, la paix, la collaboration, l'échange, et on rentre de plus en plus vers un processus d'unité. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait la guerre aujourd'hui? C'est la peur. Je veux dire, la peur de chacun, la Russie a peur de perdre son identité parce que l'OTAN est tout autour. Israël, Gaza, c'est des peurs ancestrales que tout le monde connaît. Les États-Unis se replient sur eux-mêmes. Donc c'est quoi la source de tout ça? C'est la peur. Et la peur, soit elle est transformatrice si on arrive à la regarder en face, et à voir qu'est-ce qu'elle amène à changer dans la nation elle-même, ou alors elle va, à l'inverse, il y a deux possibilités, soit elle va virer en son inverse, c'est-à-dire un système de toute-puissance, comme Israël aujourd'hui, par exemple, par rapport à Gaza, ou alors elle va essayer de se verrouiller dans un système administratif très contraignant et très, très sclérosant, en réalité, comme en Europe aujourd'hui.
Quel lien on peut faire avec la demande d'identité des peuples? Parce que j'ai cette intuition que l'identité, c'est pas l'âme des peuples du tout. C'est
non.
Plutôt
alors l'identité, c'est la personnalité des peuples en réalité.
Oui.
De même qu'un individu, on a une personnalité, une âme et un esprit. Donc l'âme, c'est la médiatrice en fait entre l'esprit et la forme et le psychisme. Donc aujourd'hui, il y a un retour identitaire précisément lié à la peur.
Oui.
Mais c'est dangereux, parce que ça crée effectivement des nationalismes qui, eux, sont fermés, se replient autour des frontières. Or, je disais tout à l'heure que l'âme d'un peuple ne peut s'épanouir que dans la confrontation joyeuse avec l'âme des autres peuples. Parce que notre identité profonde ne se révèle que dans la relation. C'est vrai pour un individu et c'est vrai pour une nation.
Et la France, elle, a un rôle à jouer particulier par rapport à cette géopolitique.
Oui. Alors je pense que oui. Alors là, je me base un peu sur le thème astrologique de la France, c'est-à-dire en fait de la Première République, 1792. Et elle a un soleil à 1 degré balance, c'est-à-dire, mais bon, ça c'est la cuisine astrologique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est fondée sur la diplomatie, Et ça, historiquement, détruire la diplomatie de la France, c'est un sacrilège identitaire, je veux dire.
C'est ce qu'a fait Macron.
Il ne fallait absolument pas faire ça, parce que c'est détruire l'ADN de la France. Elle est fondée sur l'art, et notamment la mode, la cuisine, les parfums, etc. Et quand il y a une perversion, ça devient du luxe. Le luxe, c'est quoi ? Ça a la même racine étymologique que luxus, luxation. C'est-à-dire, c'est une énergie qui ne circule plus comme elle devrait circuler, donc ça crée une cassure, une brisure.
Ouais.
Mais pour en revenir à la France a un rôle, en fait, d'harmonisateur et de médiatrice au sein de l'Europe pour créer un vrai dialogue diplomatique entre les nations. Et en même temps, de montrer que l'art, la beauté, est une manière de refléter l'âme du monde, l'âme du monde et l'esprit, l'unus mundus ici, en l'occurrence. Oui. Donc la beauté est un véhicule de l'esprit. Ça, c'est Kandinsky qui disait ça au début 1905, du spirituel dans l'art. Il disait il y a trois niveaux d'art. Il y a l'art de l'expression personnelle, il y a l'œuvre d'art qui exprime donc la personne, il y a l'œuvre d'art qui exprime la culture et il y a l'œuvre d'art qui exprime des universaux. Donc la France a cette tournure de conscience sensible à la beauté, à la mode, etc., même à la cuisine. Et d'ailleurs, la radio courtoisie est complètement dans l'âme de la France, parce que la courtoisie, l'élégance, etc., sont dans l'ADN de la France.
C'est vrai.
Et donc, sa fonction, c'est cette capacité d'harmoniser les contraires.
C'est ça.
Et de produire la beauté. Et la nature, ça c'est une parenthèse, mais la nature a fait cette chose extraordinaire qui est de créer de la beauté en produisant de l'harmonie par le conflit. Puisqu'il y a un conflit permanent dans la nature, évidemment, les insectes sont mangés par les oiseaux, mais il y a une beauté finale exceptionnelle. Et donc c'est pour ça aussi que la France est un pays, accentué par le thème astrologique, mais est un pays qui a une puissance nucléaire hein, depuis le début de la Ve République, mais simplement parce que elle est dans cette dialectique d'harmoniser un système en répartissant les puissances.
Parce que
l'harmonie tout court, ça peut être fade. La beauté tout court, ça peut être fade. Mais s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de puissance, s'il n'y a pas de vérité, mais il faut qu'il y ait au contraire de l'énergie, de la puissance et de la vérité dans l'œuvre d'art. Sinon, c'est un peu du beau discours superficiel. Donc il y a l'angle. Astrologiquement, c'est l'axe bélier-balance, donc c'est le signe du bélier qui va donner la puissance à la balance pour donner de du peps, de la lumière et surtout des principes qui sont derrière ces œuvres d'art, derrière ces expressions de la beauté. Donc évidemment, là, ici, il y a toujours une ombre, hein. Ici, ce serait l'art pour l'art, l'ombre. On peut voir par exemple dans la mode, dans certaines circonstances, des choses comme
ou dans l'art moderne.
Ou dans l'art moderne, oui. Alors Kandinsky, par contre, qui était quand même le fondateur de l'art moderne, a eu cette perception.
L'art contemporain, je devrais dire.
Oui, de très fine que j'évoquais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas sûr que les artistes dits modernes suivent la philosophie de Kandinsky.
Oui. Donc finalement, pour revenir sur cette notion d'harmonie vivante, énergétique, ça, il en va de ce monde polycentré, de ce monde multipolaire, au sens où chaque nation, chaque peuple exprime une identité en rapport, en relation avec les autres, sans que la puissance et le mode de puissance viennent les relations entre les peuples.
Oui, mais il y a une condition à ça, parce que sinon, ça va devenir du nationalisme, il faut faire très attention.
Ouais.
La condition à ça, c'est d'abord de balayer devant son palier plutôt que de chercher à balayer devant le palier des autres. On balaye beaucoup devant le palier des autres en politique en géopolitique, en critiquant ceci, cela, etc. Oui. Et on n'a jamais une critique, j'allais dire intelligente, c'est-à-dire à la fois philosophique et pratique, du capitalisme et du monde moderne qu'on a mis en place, qui pourtant nous conduit directement vers la sixième grande extinction dans laquelle nous sommes. Donc il faut interroger nos propres systèmes plutôt que de critiquer les systèmes des autres. Et puis la deuxième condition, c'est la confrontation à la peur que j'évoquais tout à l'heure. Et la troisième condition, c'est la reconnaissance des souffrances de l'histoire. C'est très difficile pour si on prend Israël, Gaza par exemple, c'est très difficile de trouver un terrain d'entente si on ne reconnaît pas les souffrances des uns et des autres. Ou dans n'importe quel, ou l'Arménie, ou n'importe quel lieu historique qui a vécu des choses extrêmement difficiles. Mmh. Donc après, il y a des techniques, hein, il y a le théâtre de la guérison, etc., qui ont été mis en place, mais je crois qu'il faut parler de la souffrance, il faut la conscientiser, il faut en réalité entrer dans le pardon pour que cette souffrance ne devienne pas violence et toute puissance contre l'autre. Sinon, on retombe dans les vieux schémas du 19e siècle.
Oui.
Et la souffrance fait partie de l'ADN des peuples, hein, de son histoire, de l'égrégore dans lequel on vit, de son âme en réalité.
Alors vous parlez par exemple aussi, ça peut être aussi la relation qui est tissée aujourd'hui entre la France et l'Algérie, vous parlez de mémoire de souffrance en parlant de l'Algérie.
Oui, alors voilà, je trouve que c'est un bon exemple. Alors peut-être je vais vexer des gens, mais c'est pas le sujet. Mmh. L'Algérie est restée scotchée dans les mémoires du colonialisme. Et donc c'est un peuple orgueilleux en réalité qui, plutôt que de faire sa propre métamorphose et suivre son propre chemin, va balayer devant la porte de la France pour dire voilà pourquoi ça va pas, c'est parce qu'on était colonisé. Mais si vous regardez le Vietnam, par exemple, qui a été lui aussi colonisé, c'est devenu une puissance économique remarquable aujourd'hui, parce qu'ils ont traversé tout ça, ils se sont reconstruits, ils ont refondé un mode de vie qui leur appartient. Donc oui, alors évidemment, il faut tenir compte de la souffrance, mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans la victimisation qui est une voie sans issue. Et qu'un jour, il faudra regarder en face.
Très bien. Écoutez, je vous propose, Luc, puisque nous sommes à la moitié de cette émission, de marquer une très courte pause et on va se retrouver, si vous le voulez bien, tout de suite après ça.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci d'avance. Voilà, vous êtes sur Radio Courtoisie dans ce libre journal de la Résistance française avec mon invité Luc Biget, eh bien, qui nous parle de l'âme des peuples. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, je vous sens très attentif à cette émission, ce qui est d'ailleurs, je l'ai souvent remarqué, quand l'émission n'est pas spécialement polémique, mais nous amène dans un certain nombre de niveaux de profondeur, les questions tardent à arriver. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'après, ça sera trop tard. Je vous préviens. Voilà, on revient avec vous, Luc Biget, sur... j'aimerais qu'on revienne un petit peu au fondement de ces deux géopolitiques, finalement. Vous revenez à ces deux grands philosophes à l'origine, que sont Aristote et Platon, et une logique qui est plus aristotélicienne et une autre qui est plus platonicienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment l'une va déboucher sur le calcul, peut-être sur le capitalisme, et l'autre nous amène vers plus de poétique, peut-être ?
Disons que pour fonder la notion d'âme des peuples, qui a été beaucoup développée hein, par les ésotéristes, hein, comme Steiner, comme Madame Blavatsky, etc., mais au fond, pour le comprendre, il faut se refaire un grand feedback, un grand back, retour en arrière parler français, c'est mieux, depuis 2500 ans. C'est-à-dire, au fond, on a eu Pythagore qui disait « tout est nombre ». Mais quand Pythagore disait « tout est nombre », il parlait à la fois du nombre-mesure et du nombre-archétype, c'est-à-dire du nombre qui est un facteur organisateur de l'inconscient collectif. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas se demander seulement qu'est-ce qu'on fait avec les nombres, comment on calcule avec, mais qu'est-ce qu'ils nous font quand on les rencontre. Donc, et puis après, cette pensée unitaire s'est scindée en deux, en fait. On a eu Platon qui a développé la notion d'idéaux platoniciens, c'est-à-dire archétype veut dire principe, hein, c'est-à-dire de principe organisateur dans le monde invisible qui organise le monde visible. Et puis Aristote, qui a plus développé l'aspect, on va dire aujourd'hui, même si c'est un peu un anachronisme, technique, logique, analytique dans sa vision du monde. Et il se trouve que ces deux grands courants de pensée ont perduré jusqu'à aujourd'hui, en réalité. Il y a encore des mathématiciens aujourd'hui qui se demandent si les formules mathématiques sont réelles ou si c'est seulement du calcul sur un papier. Et il se trouve que ça fonctionne, c'est un grand mystère. Mais si je reviens, par exemple, à la Renaissance, on a eu en fait deux renaissances. On a eu la Renaissance avec Léonard de Vinci, qui est retour à la pensée grecque, à la logique, à la clarté olympienne d'une certaine manière, à la mesure, au nombre d'or, etc. Mais on a aussi une autre renaissance avec Marcel Fischin, avec Maître Eckhart, avec Pic de la Mirandole, qui était tournée vers la pensée analogique, qui était tournée vers l'astrologie, qui était tournée vers le symbolisme. Donc ces deux courants de pensée, l'un qui dit en gros tout est matière et l'homme doit maîtriser cette matière par le calcul, par l'intelligence, par la pensée, et un autre courant de pensée qui dit qu'il existe des signes dans la nature, il existe des forces invisibles qui organisent le monde, se sont toujours côtoyées, sauf que l'une, évidemment, a aujourd'hui gagné sur l'autre. Mais la lecture plate. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour donner une profondeur à l'âme du monde, il faut se référer à la lecture platonicienne qui nous expose des liens de sympathie entre le microcosme et le macrocosme, entre l'être humain et les étoiles, entre la nation et la planète tout entière, plus d'éventuels archanges qui pourraient protéger cette nation. Donc, cette pensée est totalement légitime en réalité, mais elle a été délégitimisée par la toute-puissance de la pensée rationnelle et technicienne. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que ce sont deux manières complémentaires de voir le monde, et complémentaires, ça veut dire que l'une sans l'autre court à la catastrophe en réalité. Le monde technoscientifique court à la catastrophe parce qu'il s'enfonce dans une lecture purement matérialiste et on voit où on va, c'est-à-dire on va vers le transhumanisme. L'idéal de l'homme, du coup, c'est le robot. Alors, je ne sais pas s'il y a une évolution de mettre des puces de silicium dans un corps biologique. En tout cas, symboliquement, c'est le ramener vers la matière. Au lieu d'aller vers l'idéal de l'homme tel qu'il est, par exemple, dans une autre lecture de transformation de l'être humain par Sri Aurobindo, qui considère que c'est le supramental, c'est-à-dire l'action d'un principe, d'un archétype qui va transformer les cellules humaines et modifier la nature humaine. Donc on voit bien que suivant le système de représentation qu'on a, on est dans deux destinées complètement différentes de notre humanité.
Une question justement qui va dans le sens de ce que l'on vient de développer d'une auditrice qui dit « Je ne comprends pas l'origine et la construction de cette âme. J'ai le sentiment dans vos propos d'un nuage en lévitation. Pouvez-vous vous exprimer sur les liens avec les archanges, archées, etc. ?»
Oui. Alors, l'image est assez jolie d'un nuage en lévitation. Mais... En fait, qu'est-ce qui se passe? Si on revient sur le territoire de la France, on a dit de tout temps, la France a été une terre d'accueil. Ouais. Alors, pour des raisons climatiques, pour des raisons géographiques, pour des raisons énergétiques, etc. Donc, il y a plein de peuples qui sont passés du nord vers le sud, mais beaucoup se sont arrêtés en France. Et donc, ils ont apporté leur propre qualité d'énergie, leur culture, leurs valeurs, etc. Donc, c'est ça qui construit, au fond, peu à peu, l'âme de la France. C'est-à-dire, en plus de deux facteurs importants, c'est-à-dire le territoire, la géométrie sacrée de la France. Là, on aura une intervention sur ce sujet au colloque. Et puis, moi, j'interviendrai sur le plan astrologique, c'est-à-dire en quoi le monde céleste va impacter un territoire particulier. Donc, pour revenir à cette question, l'âme d'un pays, c'est le fruit de son histoire, c'est le fruit du transgénérationnel, c'est le fruit de sa géographie, c'est le fruit de son rapport au ciel. C'est tout ça en réalité. Donc ça se construit par l'histoire, mais ça ressemble un peu à une cuvette dans laquelle on a mis de l'eau, c'est-à-dire c'est pérenne et ça reste très longtemps.
Oui, alors, ben justement, là, si en géographie, qu'il y ait une géographie sacrée de la France, vous pouvez nous en dire quelques mots, même si c'est quelqu'un d'autre que vous qui interviendrait sur ce colloque.
Honnêtement, j'ai pas beaucoup travaillé sur le sujet, mais bon, l'Hexagone a bien sûr un sens. Bien sûr. Et puis, si on regarde très précisément comment il se construit, on a des lignes de force qui sont dont les valeurs numériques sont toujours très précises et redondantes. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas vraiment travaillé la question.
D'accord, ce n'est pas grave. Peut-être voir comment aussi, en effet, dans la face ombre, avec la technoscience, lorsqu'elle est livrée à elle-même, on finit dans le transhumanisme. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément sur ce point ?
Edgar Morin disait que l'homme augmenté du transhumanisme est en fait un homme diminué, c'est-à-dire on perd au fond, si on fait confiance, parce qu'en fait ce qui se passe c'est quoi ? C'est que le transhumanisme vise quoi ? Il vise à avoir directement dans l'œil ou dans le cerveau toutes les informations dont on a besoin, et il vise également l'immortalité génétique. Mais du coup, ça se fait par la machine, ça se fait par la technologie. Donc du coup, on peut pas construire le corps d'intériorité qui devrait nous permettre de faire ça, ce qu'on appelle le corps de gloire hein, dans la tradition chrétienne, pour entrer dans une vraie résurrection, dans une vraie transformation de notre identité profonde. Donc si on rajoute de la technique pour faire ça, en fait, on se coupe la possibilité de toute maturation intérieure et voire même de résurrection spirituelle. Donc c'est descendre de plus en plus sur la matière. L'histoire jusqu'à aujourd'hui est passée du ciel vers la matière. Si on regarde sur le long terme, tout à l'heure je remontais à Pythagore, mais on peut remonter plus loin, on peut remonter aux premières sociétés non sédentaires, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient dans la nature, ils avaient ce grand sentiment de liberté de pouvoir aller où ils voulaient, et surtout, pour eux, la nature était l'épiphanie de la grande déesse, c'est-à-dire ils voyaient à travers la nature la présence des lois de Dieu. Et puis après, il y a à peu près 3500 ans, on a eu l'agriculture-élevage, où la nature a été circonscrite dans un enclos, dans un champ fermé, et contrôlé. Donc la nature, ici, c'était le potager ou les animaux domestiques. Ensuite est venue l'époque industrielle, il y a quoi, 2 siècles et demi, 3 siècles, 1850 hein, en Angleterre, où si je reprends cette thématique de la nature, ça s'est réservé au jardin ouvrier. Et le désir, la capacité de communion est restée, au fond, ensemble pour faire avancer les choses, c'était les syndicats. Et aujourd'hui, depuis le lien Internet, donc société de création communication, on est derrière notre bureau, chacun est isolé, il n'y a plus de communion réelle, collective avec les gens. Et la nature, c'est le pot de fleurs sur le bureau. Donc, pour prendre cette métaphore, on voit bien qu'on s'est coupé en réalité du monde vivant pour entrer de plus en plus dans un monde artificiel. Et l'étape suivante, c'est le transhumanisme, c'est-à-dire l'artificiel va rentrer dans le corps. La science, la technoscience, jusqu'à présent, elle était dans la dans la culture. On faisait des shows avec plein de lumière et plein de trucs. Aujourd'hui, elles rentrent dans le corps. Et ça, c'est une étape importante dont on sous-estime les dangers, en réalité. Parce qu'une fois que le corps biologique est touché, ça va être très compliqué de revenir en arrière.
Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait compréhensible. Luc, y a un côté, j'ai envie de dire... presque utopiste dans, je trouve, votre géo-poétique. C'est que le monde a, semble-t-il, toujours été en guerre. Cette harmonie, cette poétique des relations entre les âmes, où chaque nation, chaque peuple pourrait développer, on va y revenir, son génie créateur... Eh bien, semble n'avoir jamais réellement existé dans l'histoire. Je dirais même que ce qui est bâti de la grandeur des peuples se fait dans la guerre, et toujours dans la guerre, si je voulais avoir une acceptation assez pessimiste de l'histoire.
Alors, vous avez raison, c'est totalement utopique, mais en même temps, l'utopie, c'est parfois la réalité de demain. En tout cas, si on arrive à la penser, à la formuler, à la mettre en œuvre. Quant à la guerre, je crois que le Moyen-Âge était une époque où il y avait beaucoup moins de guerres, et où, en tout cas, les guerres n'étaient pas aussi, je parle de l'Europe, n'étaient pas aussi destructrices et violentes qu'aujourd'hui. Il y a des travaux qui ont montré qu'au fond, bien sûr, il fallait aller à la guerre, mais il ne fallait jamais écraser l'ennemi et toujours lui donner une... C'était le panache chevaleresque d'aller à la guerre. Ce n'était pas le cynisme de la destruction ou du jeu d'échecs qu'on connaît aujourd'hui pour mettre l'autre échec et mat. Donc je crois que le moyen... Alors, on n'était plus dans les nations vraiment, on était dans un espace européen, chrétien... fondée sur une culture commune, mais la guerre était sans doute moins violente qu'aujourd'hui, moins destructrice en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, on a plus de moyens d'être destructeur aussi. Oui, c'est utopique, c'est complètement utopique ce que je raconte. Mais Galilée aussi était utopique, Descartes était utopique. Je veux dire, on ne peut poser les bases d'un renouvellement du monde que si on est utopique. Après, ça va dépendre combien de personnes sentent leur âme, c'est-à-dire sentent ce besoin de se connecter à l'âme de leur nation, à leur propre âme, et à mettre en œuvre cette vision du monde.
Mais alors, justement, une question d'un auditeur qui nous fait dire que cette utopie est peut-être urgente et nécessaire, justement, parce que nous sommes allés au bout de quelque chose avec cette technoscience. C'est ce risque de destruction mutuelle évidente. C'est le cas du nucléaire, par exemple, des conflagrations nucléaires. Et cet auditeur qui nous rappelle quelque chose qui est tout à fait vrai, qui fait référence à une actualité que nous avons depuis hier, d'une éventualité, d'une magouille absolument inimaginable, où les Britanniques et les Français seraient en passe de délivrer à l'Ukraine l'équivalent d'une tête nucléaire ou d'une bombe sale dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, et quelle folie ce serait. Eh bien, il y a cet auditeur qui nous tient ses propos à propos de puissance nucléaire. Pouvez-vous prévoir où tomberont les têtes de 800 kilotonnes, soit 50 fois Hiroshima, puissance standard dans l'arsenal russe, quand notre grand conquérant, donc il veut parler de Macron, aura équipé son pote Zelensky avec les têtes nucléaires françaises, ce qui semble être le dernier projet en date du couple de débiles franco-anglais. Au passage, il faut remercier l'ensemble de la classe politique hard qui semble se soucier de l'avenir immédiat du pays comme d'une guigne, espérant sans doute sauver leur sinécure au milieu d'une France vitrifiée et radioactive pour les siècles et les siècles. Ce que dit cet auditeur, au-delà de l'ironie, c'est que finalement, on en est arrivé aujourd'hui à un monde qui est totalement destructeur, qui se nie lui-même. Vous disiez tout à l'heure, c'était folie de détruire la diplomatie française, mais j'ai envie de dire, c'est folie. L'œuvre de Macron depuis maintenant 8 ans, il détruit, il semble presque vouloir détruire l'âme de la France. Il a voulu la nier quand il a dit « il n'y a pas de culture française ». Je pense que Macron a voulu dire « il n'y a pas d'âme française » ou « c'est un destructeur d'âme, un tueur d'âme, il faut le dire ». Eh bien, est-ce que justement cette technoscience poussée à son extrême n'est pas destructrice des peuples et de l'humanité et qu'il nous faut en urgence justement avoir cette poétique, cette poésie et non géopolitique traditionnelle.
Je ne peux que souscrire, mais ce que je veux, pourquoi on en arrive là? Parce que au fond, l'intelligence au sens de l'intellect est froide et cynique. C'est-à-dire, lorsque l'intelligence ne se connecte plus au cœur, c'est-à-dire à la dimension de l'âme, précisément, à la dimension sensible, à la dimension du miracle, à la dimension de la confiance, à la dimension de la paix intérieure, on en arrive là. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont manettes du pouvoir et qui ont complètement perdu cette relation au cœur. Et ça se sent évidemment dans leurs décisions. Parce qu'ils sont incapables de comprendre l'importance de la diplomatie, ils ne jurent que par les puissances, ils ne jugent que par la supposée finesse de leur intellect, mais du coup qui ne l'est pas du tout, parce qu'elle elle n'est pas nourrie par des intuitions venues d'en haut, venues des autres mondes, venues des mondes supérieurs. Donc tout ça, c'est absolument dramatique. C'est en fait le symptôme d'une pathologie. Donner des bombes sales à l'Ukraine, c'est le symptôme d'une pathologie qui est son propre éclatement psychique en réalité.
Ouais.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire après concrètement? On peut voter, hein. mais en cours de route, la Constitution française fait qu'on peut. C'est très difficile de démettre un président. Mais on peut aussi. Il y a une jolie expérience qui a été menée dans les années, je crois que c'est les années 90 en Israël, où il y avait beaucoup de, à l'époque il y avait beaucoup d'attentats du Hamas, etc. Bon, c'est pas, ça n'a pas beaucoup changé, mais et il y a des méditants qui sont allés là-bas et leur consigne c'était je médite, je suis dans la paix du cœur, je n'ai aucune intention particulière, je suis juste dans la paix du cœur. Et c'est une expérience qui a été menée pendant une dizaine d'années, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que les méditants étaient là, le nombre d'attentats diminuait, le nombre de morts diminuait, le nombre de violences diminuait.
Ah oui.
Donc oui, ça a été publié dans un journal scientifique dont je pourrais retrouver le nom. Donc ce que je veux dire, c'est que en fait, plus le monde va vite, plus il faut aller lentement dans son intériorité, et plus il y a de violence intérieure, plus il faut cultiver la paix du cœur. Et ce ne sont pas des mots, c'est une réalité profonde. C'est la seule manière d'être irrévérencieux, de ne pas se laisser entraîner dans cette folie collective. Et plus on la critique, évidemment, plus on la nourrit. Ça, c'est ce que Jung appelait l'énantiodromie, c'est-à-dire celui qui critique quelque chose va devenir comme sa proie, comme l'objet de la critique. Et donc celui qui critique la violence, le totalitarisme et que sais-je encore, il donne de l'énergie à ça en réalité, et il la nourrit. Et le fait de la nourrir, il va peu à peu devenir comme lui, c'est-à-dire aussi intransigeant dans sa critique que ce qu'il critique lui-même. Donc il faut faire très attention à ça, parce qu'on se laisse facilement embarquer dans ce genre de choses.
Évidemment.
Et donc on joue le jeu des puissances du mal, en réalité, en voulant les critiquer. Donc vraiment, prendre le contre-pied de ce qui se passe dans le monde. Si le monde est bruyant, cultiver le silence. Si le monde est explosé, cultiver l'unité intérieure. Si le monde est dans la... dans des violences, etc., cultiver la paix du cœur. Parce qu'on fait un équilibre dans l'univers.
Oui.
Et en fait, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'individu, parce que qu'est-ce qui fait une nation, finalement? C'est l'ensemble des individus qui la composent. Donc on a tous un rôle à jouer dans ce grand système.
Bien sûr. Un auditeur, l'avenir de l'intelligence, selon John von Neumann, un des principaux génie créateur de la bombe H résidait dans des machines autoreproductrices qui pomperaient leur énergie du cosmos en l'explorant. Il n'a pas dit pour qui ni pour quoi, mais l'homme augmenté me semble avoir un tramway de retard, car le robot, qui atteint déjà un niveau de bêtise quasi humaine, ne tardera pas à conclure qu'il n'a plus aucun besoin du bipède biologique, augmenté ou pas. Nous en sommes déjà à Terminator et Robocop, et Musk a promis d'en construire 1 million par an dès cette année. L'avenir de l'intelligence est de parier sur la reine bêtise, comme chantait Jacques Brel. On n'est jamais déçu. Bon, vous vous donnez une autre option qui est la paix du cœur, Luc Biget.
Ben, disons que dans cette logique, on voit bien combien les IA ont besoin d'énergie. Donc on est dans une logique de l'énergie en réalité. L'information ne peut se concevoir dans cette logique-là que si on a des centrales nucléaires qui font tourner les machines. Mais on oublie la chose essentielle, c'est qu'on est aussi conscience. Et c'est le mariage de la conscience et de l'énergie qui fait avancer le carrosse de notre humanité. Donc, si on n'est que dans l'énergie, évidemment, on va vers quoi ? Vers l'explosion ou le contrôle total. Oui. Si on est dans la conscience, on fait un contrepoint qui permet de voir, du coup, comment on peut utiliser cette énergie sans être dans la course effrénée. Mmh. Mais aujourd'hui, la conscience est devenue une espèce d'orpheline oubliée dans notre monde, dans notre réalité. Alors, quand je parle de la conscience, je parle de la création d'un corps d'intériorité dont l'expression dans une nation, c'est la culture.
Vous pouvez développer un peu cet aspect culture ?
Bah, la culture, elle dit quoi ? Elle est porteuse de valeurs. La culture, en fait, c'est le contre-pouvoir à la politique aujourd'hui. Parce que dans la culture, on peut encore à peu près être transgressif ou l'humour et dire des choses qui ne seront pas admises socialement par les bien-pensants de ce monde. Donc la culture, c'est quelque chose qui est plus proche de l'âme d'une nation parce qu'elle véhicule la beauté, parce qu'elle véhicule quelque chose d'ineffable, alors que ce soit ineffable dans l'ombre, hein, la beauté n'est pas toujours, je veux dire, à proportion harmonieuse, mais peu importe ici, elle est capable de véhiculer quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, c'est-à-dire qui est de l'ordre de l'irrationnel en réalité, donc qui rentre du coup dans le champ platonicien des idées que j'évoquais tout à l'heure. La culture n'est pas alors la culture au sens littéraire, au sens musical, au sens pictural, c'est quelque chose qui permet un contre-discours en réalité au discours dominant. Ou alors, mais encore une fois, ça peut être utilisé. Je veux dire, le Troisième Reich a utilisé les grands rituels et l'art pour faire avancer ses propres projets. Donc là encore, il n'y a pas d'absolu. Mais il a eu cette intelligence, entre guillemets, hein, de marier les deux, la puissance et la culture, ce qui a fait sa force pendant un certain temps.
Oui. Absolument. Alors, Luc Biget, question, puisqu'il y a l'âme des peuples. Chaque peuple a une âme. Est-ce que, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il y a des âmes sœurs ? Est-ce qu'il y a des peuples frères ? En particulier, par exemple, moi j'attache beaucoup d'importance au lien franco-russe. Est-ce que vous trouvez dans le ciel les étoiles, dans l'astrologie, mais aussi dans les archétypes des liens justement qu'on peut trouver entre des peuples, et par exemple, je vous donnais l'exemple franco-russe.
Alors, deux types de réponses. Si on regarde l'histoire, les liens franco-russes ont été toujours très présents en réalité, sur le plan historique. Et en même temps, bon alors après, il y a eu Napoléon, c'est sûr, qui a cassé un peu le truc, mais bon, et Hitler aussi, qui s'est aussi cassé les dents jusqu'en Russie. Mais pour répondre d'une manière un peu comment dirais-je, anecdotique, les deux. Alors, le thème astrologique de la France est Balance ascendant Scorpion, et les deux présidents qui ont le plus marqué la France à savoir Charles de Gaulle et François Mitterrand, donc là on ne fait pas de politique, on fait juste de la résonance énergétique, étaient tous les deux balance ascendant scorpion. Et il se trouve que Vladimir Poutine est aussi balance ascendant scorpion. Mmh. Donc il doit y avoir probablement, alors je n'ai pas étudié le thème ni l'histoire suffisamment de la Russie pour faire évoquer ces universaux dont je parlais tout à l'heure, ces constantes. Mais du coup, c'est un signe de dire qu'il y a cette connivence entre la France et la Russie.
Oui.
Alors après, il faudrait plus l'établir, mais je pense que à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue, culturel. Enfin, la Russie, la création de Saint-Pétersbourg, c'était pour se tourner vers l'Occident. Enfin, la Russie a en permanence cherché à se tourner vers l'Occident. Et l'Occident a toujours joué au chat et à la souris sans comprendre les choses, en réalité. Ce qu'on aurait dû faire, en fait, si on regarde la structure astrologique de l'histoire, on aurait dû, à partir de 1989, donc 89-91, la chute du mur,
oui.
Faire une grande alliance. L'Europe aurait dû faire une grande alliance avec la Russie pour construire un nouveau modèle de civilisation qui aurait duré 6 à 7 siècles. On avait commencé avec Mitterrand et Gorbatchev pour créer ce qu'il appelait à l'époque la maison commune entre l'Europe et la Russie.
Qu'est-ce qui l'a empêché ?
Je pense que ça s'est cassé la figure vers 2004. Je pense que c'est l'OTAN et la stratégie américaine qui ne voulait absolument pas que ça se fasse parce qu'évidemment, c'est un contre-pouvoir considérable. Et depuis, les élites occidentales ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que le lien historique devrait être fait avec la Russie pour construire un modèle de civilisation où l'Europe, on a l'histoire, on a la technologie, on a la science, la Russie a aussi la science, il y a de très grands mathématiciens, et puis elle a des ressources naturelles, donc on pouvait construire littéralement un nouveau monde à partir de ce moment-là.
Et ce serait encore possible aujourd'hui ?
Je pense qu'avec de la bonne volonté, tout est possible. Le tout, vous savez qu'en 2000-2001, Poutine avait fait un discours en disant qu'il était prêt à étudier le fait d'entrer dans l'OTAN. Et ça, à nouveau, ça ne s'est pas fait. Donc, encore une fois, il faudrait que l'Europe balaye un peu devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on est allé trop loin dans le... Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, c'est souhaitable. Si c'est possible, je ne sais pas.
Quel rôle joue Macron dans toute cette géopolitique ? On a l'impression d'un pur destructeur.
Oui,
Il s'acharne de façon presque diabolique à rendre impossible ce qui serait souhaitable.
Oui, je ne suis pas dans sa tête. D'ailleurs, je ne préfère pas, mais bon... Si on regarde ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est quand même à la fois un petit peu le fossoyeur de l'industrie en France et puis le au niveau des relations internationales, il a été beaucoup rejeté, il est plus crédible. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors après on peut rentrer dans des spéculations métaphysiques, mais en tout cas, je crois que c'est un échec de la France d'une certaine manière.
Dans quelle spéculation métaphysique ?
En disant que les forces de l'ombre sont à l'œuvre dans le monde et qu'on va de plus en plus vers une espèce de violence collective. Après, bon, voilà. Quand je vois, par exemple, des enfants qui, à l'école, qui se lèvent, qui prennent un poignard et qui vont tuer leur maîtresse, je veux dire, il y a un problème. Donc, je ne dis pas que Macron est comme ça. Je dis qu'aujourd'hui, la fine limite qui sépare les puissances de l'ombre de la conscience ordinaire est en train de se dissoudre. Donc, alors après, on peut invoquer plein de raisons. On peut invoquer les écrans, on peut invoquer l'immédiateté, on peut invoquer le manque de temps intérieur pour conscientiser et digérer les choses, etc. Mais en tout cas, cette fine barrière entre les forces de l'inconscient, les forces obscures de l'inconscient, et le monde de la conscience ordinaire et devient de plus en plus ténu et on voit des gens des élèves qui vont tuer leur maîtresse, donc c'est délicat.
On a parlé de l'Occident, finalement, beaucoup dans l'âme de ces peuples. Et la Chine, par exemple, elle est l'âme de la Chine.
Ah, bah, la Chine, c'est comme un peu comme la France, hein, enfin même plus, d'ailleurs, c'est un empire plurimillénaire. Donc, quelle est l'âme de la Chine? Je ne sais pas, mais par contre, la Chine, la valeur de la Chine, c'est l'harmonie.
L'harmonie.
L'harmonie. C'est pour ça que ce n'est pas une démocratie. Parce que la démocratie met en évidence les différences individuelles. Les États-Unis sont prométhéens, la Chine est peut-être orphique ou protéine, je ne sais pas, il faudrait regarder plus. Mais en tout cas, pourquoi Tiananmen, ça n'a pas marché? Parce qu'au fond, le péché originel, c'est de casser l'harmonie du tissu social et l'harmonie des relations. Donc du coup, c'est ce que fait un Prométhéen. Prométhée, il a trahi successivement sa famille, les dieux, et puis la métaphysique, le ciel étoilé, pour arriver à ses fins. Trump, il est un Prométhéen, c'est-à-dire il trahit successivement tous ses alliés pour arriver à ses fins. Donc, c'est pas du tout dans la logique chinoise. La logique chinoise, elle est plutôt neptunienne, pour prendre un facteur astrologique, c'est-à-dire elle est fondée, c'est l'empire du milieu, c'est-à-dire il n'est pas impérialiste, il n'est pas conquérant. Alors je crois qu'au XIVe siècle, la Chine avait fait d'immenses bateaux avant Christophe Colomb, ou à peu près concomitamment, pour explorer le monde. Et évidemment, ils étaient allés en Afrique, ils étaient allés je ne sais pas où, mais ils apportaient des cadeaux pour montrer la suprématie de leur propre culture. Nous, quand Pizarro est allé en Espagne, il a pris l'or des Incas et il a tué tout le monde. Donc, ce n'est pas du tout la même mentalité, en réalité. Donc la Chine, alors d'une part, elle est très matérialiste, c'est confucien, c'est-à-dire c'est le monde de Confucius. Mmh. Confucius, il a développé l'harmonie entre le culte des ancêtres et l'harmonie entre les différentes personnes. Donc du coup, le côté individualiste qu'on connaît en Occident est absolument incompréhensible pour les Chinois. Enfin, incompréhensible. Ils peuvent le comprendre intellectuellement, évidemment, mais de même que nous, on ne peut pas comprendre la culture chinoise tellement elle est subtile et elle est fondée sur d'autres prémices en réalité que la nôtre.
De même qu'il y a des âmes sœurs, est-ce qu'il y a des âmes ennemies, des couples infernaux, Chine
peut-être.
Et Inde, France et Grande-Bretagne, ou France et Allemagne.
C'est ça. L'Allemagne...
Grande-Bretagne et Russie.
Plutôt France et Angleterre et Grande-Bretagne, effectivement. Où là, on a vraiment... historiquement, c'est compliqué. Hein. Ça, on peut remonter à la guerre de 100 ans. Donc oui, il y a toujours eu ce conflit un peu compliqué entre la France et l'Angleterre, c'est sûr. Est-ce que c'est des âmes ennemies? Je ne sais pas. Ou c'est peut-être des âmes tellement différentes qu'elles ont du mal à se comprendre.
Et pourtant, il y a tant de proximité. On parle bien de nos cousins, les Anglais. Il y a un cousinage évident.
Il y a un cousinage, il y a probablement un cousinage génétique ou un cousinage... Enfin, je veux dire, les Anglais sont restés un siècle, un peu plus, en France pendant la guerre de 100 ans. Et après, évidemment, il y a aussi des échanges, mais sur le plan fondamental, je pense que les valeurs, alors sans préjuger des valeurs, évidemment, sont assez différentes. On a plus de proximité, je pense, avec l'Allemagne qu'avec l'Angleterre.
Ah oui, malgré les guerres et les conflits qui ont émaillé...
C'est intéressant de voir qu'il a fallu trois guerres avec l'Allemagne pour créer l'Union européenne. La guerre de 70, la guerre de 14 et la guerre de 40. Donc, trois grands conflits qui ont finalement amené le général de Gaulle, qui parlait couramment allemand, à envisager l'Union européenne avec l'Allemagne comme moteur.
Mais ça a échoué. C'est un échec complet aujourd'hui.
Bah aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai. Mais après, parce qu'on n'a pas eu les personnalités qu'il fallait pour maintenir le fil, probablement. Mais enfin, en tout cas, on n'est plus en conflit ouvert avec l'Allemagne comme on l'a été. Mmh. Donc, c'est intéressant. L'idée que je voulais suggérer, c'est qu'au fond, le conflit peut créer de la concorde, ou en tout cas une nécessité de concorde, même si ça a duré 40 ans.
Ouais.
Entre 70 et 45.
Cet auditeur, c'est Michel Dumas qui nous gratifie de son quatrain du jour. C'est un collaborateur des livres journaux que je dirige. Eh bien, le quatrain de Michel Dumas, aujourd'hui, je vous le livre tel quel. Que revienne au roi ouin en son corps et son âme. Écoutez bien, Luc Biget, c'est souvent très subtil. Je répète. Que revienne roi ouin en son corps et son âme, touché cœur des Français ingrats à Ozanam, monde réenchanté et guéri de Paname, grâce à Vannes par Jésus, jusqu'à meurtri Vietnam. Alors, il nous livre, pour comprendre son quatrain, la prière de Marcel Vannes. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse, fait que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Ça me fait penser ce que dit Michel Dumas au fait que les nations aussi, les patries, ont souvent soit des anges tutelles, des archanges tutélaires, soit des parrains, enfin des parrains plutôt, des saints patrons. C'est le cas de la France qui a des saints patrons, saints patronnes en l'occurrence, et saints patrons.
Bah, oui, Michael et Marie, oui.
Ouais.
Oui, oui, bah c'est aussi une lecture de l'âme des peuples, c'est-à-dire s'il y a des grandes entités ou des grands champs de conscience qui protègent et qui inspirent chaque nation, effectivement. Ça, c'est audible que dans une lecture platonicienne, encore une fois. C'est pas audible dans ce monde prédateur, capitaliste et irrationnel.
Ouais.
Mais, encore une fois, c'est totalement légitime de le penser parce que, la science n'a pas le monopole de la connaissance et de l'expérience.
Mais alors, ce monde capitaliste prédateur dont vous parlez touche peut-être à sa fin. On sent bien, avec l'économie des dettes, le risque d'un crash final.
Alors, il touche à sa fin à la fois à court terme et à moyen terme. C'est-à-dire, il touche à sa fin parce que les ressources vont arriver à manquer. Les terres rares, maintenant tout le monde s'y précipite, mais bon, le pétrole, etc. Donc, alors les crises économiques, je ne suis pas sûr que ça permette le renouvellement du système, parce que le système se nourrit justement des crises économiques et est capable de rebondir à chaque fois. Par contre, il y a un facteur limitant qui sont les ressources naturelles. Et puis l'autre facteur limitant dont on ne parle pas, et ça je ne comprends pas, c'est la sixième grande extinction, c'est-à-dire sur la question écologique. Je veux dire, le jour où la planète deviendra quasiment invivable, ça va être compliqué, avec tous les réfugiés climatiques qui vont se présenter, etc. Donc tout ça, ça va bouleverser tout le système. Est-ce qu'il va encore pouvoir perdurer? Parce qu'en fait, on peut voir le bouleversement climatique comme le symptôme d'une pathologie, qui est la pathologie du capitalisme. Donc si on ne questionne pas ça...
Vous êtes un adepte de la décroissance, Luc Biget ?
Oui, la décroissance. Alors, si la décroissance est choisie, on appelle ça de la décroissance, et si elle n'est pas choisie, on appelle ça de la pauvreté. Mais bon, je pense que la richesse extérieure peut être largement compensée par le fait de cultiver la richesse intérieure. Aujourd'hui, quel est l'idéal de l'homme? Au fond, c'est Malraux qui disait ça. L'idéal de l'homme, chez le Romain, c'était le héros. C'est-à-dire celui qui a le sens de l'honneur et qui gagne dans une bataille tout en mourant dans le conflit. L'idéal du monde du Moyen-Âge, c'était le saint, c'est-à-dire celui qui incorpore dans sa chair, qui devient une théophanie, qui incorpore dans sa chair la présence du divin. Même l'idéal de l'anglais pendant l'époque coloniale, c'est le gentleman. Aujourd'hui, quel idéal de l'homme avons-nous? Voilà. Alors, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, c'était le savant, dont Einstein, début XXe, a été un peu la figure de proue et la figure finissante, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, vers quel homme idéal allons-nous
Oui, on a eu l'honnête homme, on a eu plusieurs...
On a eu l'honnête homme, on a eu tout ça. Mais tout ça, c'était des corps d'intériorité, c'est-à-dire c'était des manières d'être au monde. Le héros, il a une manière d'être au monde, le saint aussi, le gentleman, l'honnête homme aussi. Aujourd'hui, on est tellement dans l'extériorité qu'on n'a plus d'image de ce qu'on pourrait être en tant qu'être au monde. Donc, je ne sais plus c'était quoi la question, mais oui, la pauvreté,
la décroissance.
La décroissance permet ça, justement. C'est-à-dire de nous sortir de la marée montante des objets qui envahissent sans cesse notre réalité pour cultiver la richesse intérieure.
Bien, écoutez, il reste à peine 2 minutes. Un mot de conclusion, Luc Biget, sur ce colloque qui se tient le 21 mars à Paris.
Alors, c'est un pavé lancé dans la mare de l'époque actuelle pour proposer une nouvelle vision de la géopolitique. Dans une lecture pour aller vers une géopolitique. Et donc, on va poser quelques pierres blanches qui vont, nous l'espérons, s'il y a quelques échos dans l'auditoire, pouvoir donner des suites, parce qu'après, on peut évidemment explorer l'âme de la France, on peut explorer l'âme de la Russie, l'âme de l'Allemagne, etc., pour rentrer dans un espoir de symphonie des nations et non pas la cacophonie des puissances qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail à long terme et ce colloque est la première pierre de ce que nous espérons être une cathédrale pour le futur.
Comment fait-on pour s'inscrire, Luc Biget ?
Alors, on peut passer par mon site réenchanterlemonde.com où il y a un lien avec le colloque.
On peut aussi réenchanterlemonde.com.
Voilà.
Vous allez sur ce site, chers auditeurs, et vous inscrivez pour le colloque du 21 mars.
Et puis, c'est relayé par Nouvelle Acropole Paris, donc on peut aussi simplement taper colloque âme des peuples, et je pense normalement dans la barre de recherche, ça devrait s'afficher.
Eh bien, merci beaucoup, mon cher Luc Biget. C'était un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Merci à Virginie. Merci à Lara de m'avoir tenu compagnie aussi au début de cette émission. Passez une excellente soirée et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé par Nicolas Stocker et assisté de Lara Stam. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 25 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne veut que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.